les choses à changer immédiatement, oui. Par exemple, leurs huiles, le petit déjeuner du matin. Ça, c'est des choses immédiates que je leur dis, non, essayez de faire ci ou ça. Et toujours par touche, parce que les gens ne vont pas abandonner leurs habitudes tout de suite comme ça. Hein. C'est très difficile, ça aussi. C'est toute une endorphinisation qu'on doit mettre en place. Mais tout ça, je ne peux pas expliquer ça en une heure.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Surpoids, allergies, troubles du sommeil, digestion difficile, infections à répétition. Et si, en plus des traitements médicaux prescrits, notre alimentation jouait un rôle clé pour aller mieux? À l'heure où l'OMS alerte sur l'ère post-antibiotique et la montée des bactéries multirésistantes, il devient essentiel de renforcer nos défenses naturelles. Pourtant, notre mode de vie moderne nous éloigne de cet équilibre. Alimentation transformée, appauvrissement des sols, cuisson excessive, carence en micronutriments essentiels, nous consommons trop de certaines choses et pas assez d'autres, et nous nous épuisons par manque d'énergie, de sommeil, d'activité physique ou à cause du stress. Or, notre alimentation est bien plus qu'une simple source de calories, elle est le carburant qui alimente notre vitalité, notre immunité et notre bien-être mental. Alors, comment ajuster notre alimentation pour mieux nous protéger et réduire nos chances d'infection? C'est le thème de notre épisode aujourd'hui. Avec moi, nous avons Dr Rose Razafimbello. Bienvenue Rose dans cet nouvel épisode.
Bonjour Noémie, merci de m'avoir invitée à parler de ma passion en fait.
Ta passion pour l'alimentation.
Je crois que c'est une vieille histoire, mais que je ne vais pas raconter ici. Mais depuis l'âge de 6 ans, je voulais être médecin. Et pourquoi 6 ans alors que je ne savais même pas ce que c'était un médecin en quelque part hein, c'est que à l'époque où j'étais à Madagascar, on n'avait pas le droit de manger. Lorsqu'on est malade, on n'a pas le droit de manger. Il faut jeûner et puis se reposer. D'ailleurs, c'est resté un peu le... Et moi, je disais, moi, je veux être médecin parce que moi, quand je serai médecin, j'autoriserai les petits patients à manger.
Quand alors, ils sont malades.
Et voilà, comme quoi les vocations, comme ça commencent les vocations.
Donc, maintenant, tu es vraiment médecin.
Oui, je suis vraiment médecin.
Spécialiste en nutrithérapie.
Je suis allopathe, tout ça, basique, et je reste toujours allopathe parce que les autres médecines, c'est très bien. L'homéopathie, l'acupuncture et les autres médecines dites parallèles, très certainement c'est très bien, mais ce n'est pas ma compétence. Moi, je ne fais que ce que je connais.
Bon. D'accord.
Sauf que j'ai découvert la nutrithérapie lors d'un séminaire où il y a exactement 34 ans maintenant. Et donc, il y a 24 ans, j'ai laissé ma patientèle de médecine générale pour m'installer en nutrithérapie exclusive. C'est un peu compliqué d'ailleurs à mettre en place au départ. Parce que...
Surtout il y a 34 ans.
Oui, non, mais là, il y a 24 ans que je ne fais que, vraiment, que je reçois qu'en nutrithérapie. Alors, la nutrithérapie, c'est justement aider les personnes qui viennent me consulter avec l'alimentation, les compléments et une hygiène de vie plus globale. La respiration, le mouvement, surtout quelque chose de très important, la réduction du stress, qui, tout le monde le sait quand même, que c'est comme ce qu'on appelle le surcroît de stress, parce que le stress est important pour avancer. Tout le monde a besoin de stress. Moi, je parle de le stress qui est nocif, c'est-à-dire en excès. Parce que le stress, si on n'avait pas de stress, on n'avancerait pas. Donc, tous ces moyens-là, si vous voulez, j'ai appris depuis 34 ans, parce que c'est une formation permanente. Vous avez bien vu sur le marché toutes les nouvelles molécules, toutes les nouvelles... Chaque année, il y a quelque chose des nouvelles, même dans un livre récent qui vient de sortir, les nouveautés, parce qu'on s'intéresse et on cherche. Moi, il y a 34 ans, il y avait beaucoup moins de possibilités. On connaissait moins les propriétés des molécules. Alors, au fur et à mesure, c'est une formation permanente, en fait.
Du coup, tu as fait de la recherche dans l'alimentation.
Je ne fais aucune recherche, moi. Moi, justement, c'est ça que je tenais absolument à dire. Moi, je fais confiance à des spécialistes, mais des vrais, c'est comme lorsqu'on va à la fac, on a des spécialistes qui nous apprennent que tel antibiotique, c'est pour telle pathologie. Moi, je ne vais pas les fouiller si c'est vrai ou pas vrai. Il y a ce qu'on appelle la haute autorité de santé qui nous donne des directives. Je n'ai pas fouillé, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que parfois, bon, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec leurs allégations, mais c'est comme ça. Donc, il y a des spécialistes, hein, qui sont, en particulier bon, le docteur Jean-Paul Curté, qui a introduit la nutrithérapie en France.
On l'a reçu d'ailleurs dans l'épisode précédent.
Oui, alors, pour ne pas le citer, mais c'est lui qui est quand même... et lui, il n'affirme pas parce qu'il dit ça comme ça, c'est parce qu'il se base sur les études. C'est pour ça que j'aime ça, c'est comme l'allopathie, preuve dépendante. Sinon, ça ne m'intéresse pas. C'est pas des... Parce que si on... c'est passionnel, l'aliment. Si on regarde sur Internet tout ce qui est dit, moi, je suis atterrée chaque fois que j'ouvre une page Internet sur un aliment. Et je... Mais il n'y a que des bêtises, parfois. Je me dis, ce n'est pas possible. Les gens, ils croient ça. C'est... Donc, je pense qu'il faut être formé. Et donc, je suis formée, mais je ne suis pas fondamentaliste dans la mesure. Je ne formule pas des médicaments ni quoi que ce soit. Hein, on me dit que c'est bien ça pour ça. Je donne ça pour ça.
Tu retranscris quand même beaucoup d'informations parce que tu as pas mal de livres à ton actif.
Oui, alors voilà, les livres, c'est autre chose. Il faut bien voir que c'est une vraie consultation médicale. C'est-à-dire que les gens viennent pour un problème, quel qu'il soit, aigu, pas aigu, prévention, pas prévention. Et il y a le conseil nutritionnel, mais c'est impossible pour moi de développer, au cours d'une consultation, la cuisine elle-même. C'est pas possible, ce serait trop long. Déjà, je prends les gens une heure, hein, quand même, et on parle de leur maladie, de ce que je vais leur donner, qu'est-ce qu'ils doivent attendre, quelles sont leurs habitudes. Enfin, c'est un interrogatoire normal, mais un peu plus long que peut-être dans les consultations normales. Hein. Je crois qu'ils auront droit à un quart d'heure, hein, les gens. Mais moi, dans la médecine traditionnelle, ils ont droit à un quart d'heure. Bon, moi, je prends donc une heure pour essayer de voir le problème dans tout son ensemble, parce que c'est tout un ensemble, la maladie. Hein, c'est pas simplement j'ai mal à la gorge ou j'ai un rhume souvent. Bon, c'est faut essayer de voir pourquoi c'est comme ça. Mais j'ai pas le temps de faire ça. C'est pour ça que j'écris des livres, parce que moi je suis ce qu'on appelle une créatrice de recettes. C'est-à-dire toutes mes recettes, c'est tourné uniquement autour de la nutrithérapie. Chaque ingrédient, chaque manière de faire, c'est une raison d'être. C'est pas du tout une recette de cuisine ordinaire, on va dire. Hein. Donc ça, je le ferai dans les livres, parce que là ils ont le temps de le lire, de le relire, de le mettre en pratique. Hein. Bien sûr, je leur donne quelques éléments, mais je peux pas développer ça dans la consultation. Des choses à changer immédiatement, oui. Hein, par exemple, leurs huiles, le petit déjeuner du matin. Ça, c'est des choses immédiates que je leur dis, non, essayez de faire ci ou ça. Et toujours par touche, parce que les gens ne vont pas abandonner leurs habitudes tout de suite comme ça. Hein, c'est très difficile, ça aussi. C'est toute une endorphinisation qu'on doit mettre en place. Mais tout ça, je ne peux pas expliquer ça en une heure. En plus de leur maladie, parce qu'ils viennent quand même parce qu'ils ont un problème de santé. Grave ou pas grave, mais ils ont un problème de santé.
Oui, oui, quand même. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui peuvent utiliser la nutrithérapie
Eh bien, tout ce que je préconise, c'est-à-dire les kinés, les ostéopathes, les professeurs de yoga, de qigong, tout ce qui peut réduire le stress, hein, tout ce qui peut arranger le corps. Hein, voilà, mais pas des diététiciennes, parce que c'est trop restrictif la diététique. C'est autour des calories la diététique, donc sûrement pas la diététique. Des diététiciennes, je veux dire. Hein. Les naturopathes, c'est la même chose que moi. En France, naturopathes, nutrithérapie, c'est exactement la même chose. Sauf que moi, je suis médecin, eux ne sont pas médecins. Donc, moi, j'ai plus de facilité parce que je peux prescrire des médicaments, des examens et tout ça. Tandis que pas les naturopathes, mais on fait à peu près le même métier. Je ne veux pas leur envoyer le métier que je fais. Donc, je n'adresse pas aux naturopathes.
Le sujet de notre épisode, c'est booster son immunité par l'alimentation. Est-ce qu'on peut expliquer simplement à nos auditeurs, nos auditrices, comment notre système immunitaire fonctionne? Vraiment très simplement, parce que moi, j'ai grandi avec, je ne sais pas si tu te souviens, le dessin animé « Il était une fois la vie ». Et donc, je vois très bien, en fait, ces petites armées de soldats bien organisées avec différentes lignes de défense, une mémoire capable de réagir quand il y a des virus qu'on reconnaît. Voilà. Mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu les mécanismes de l'immunité?
C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement ça.
Oui.
Ou alors, ce serait trop compliqué à expliquer, vraiment trop compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont tellement... subtil, hein, qui s'adapte au fur et à mesure, c'est épouvantable. Je veux dire, lorsqu'on rentre dans la complexité de la cellule, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais le plus important, c'est de savoir qu'on a besoin d'énergie d'abord en premier, parce que sans énergie, on ne peut absolument pas se défendre. Énergie, par exemple, ça veut dire magnésium, puisque toute la chaîne de production d'énergie dépend de magnésium. Donc ça, de toute façon, c'est gagnant à tous les coups. Et comme on sait que la plupart des personnes manquent de magnésium, ça c'est connu. C'est connu et reconnu. D'ailleurs, il suffit que les gens fassent les surveillances. Quand je leur donne du magnésium, ils sentent tous la différence. Dans ce que les autres compléments, pas vrai. C'est pas vrai du tout. Quand on donne un antioxydant, d'un seul coup, on n'a pas une belle peau ou d'un seul coup, on n'a pas. On voit pas ces choses parce qu'il faut plusieurs temps. Il faut 18 mois pour changer de membrane cellulaire. Donc, on ne peut pas voir ça tout le temps. Mais magnésium, c'est presque immédiat, hein, si on la donne la bonne dose. Donc, l'énergie déjà, pour l'immunité, c'est l'énergie. Donc, énergie, magnésium.
Ça, c'est l'équation.
Ensuite, voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui a une double casquette, qui est le zinc. C'est pareil, le zinc, c'est ce qu'on appelle un facteur d'anabolisme. On ne peut rien construire sans zinc. Pas d'os, pas de muscles, mais aussi pas d'anticorps, pas de protéines. Toutes les protéines sont zinc dépendants. Pour les anticorps et tout ce qu'on peut fabriquer pour nous défendre, si on n'a pas assez de zinc, eh bien, on ne peut pas. Et ce n'est pas en mangeant le zinc le jour où on est malade qu'on va en avoir. Il faut un certain temps pour remonter le taux de zinc. Donc, c'est vrai, ça fait partie de la base. Hein, de la base, avec la vitamine D, le magnésium. Et le zinc, par contre, il est un peu subtil. Le magnésium, même quand en pleine crise, 39 de fièvre, malade et tout, on peut prendre le magnésium. Le zinc, si on a une infection bactérienne, on ne peut pas prendre le zinc. Parce que c'est les microbes qui ont inventé le zinc. C'est étonnant de savoir ça. Par contre, c'est un bon antiviral. Mais souvent, lorsqu'on a la fièvre, on ne sait pas si c'est bactérien ou si c'est viral. Donc, lorsqu'on est dans l'aigu, on n'a pas besoin de prendre ça.
On met de côté,
en suspens. Mais ça fait partie des outils pour l'immunité. La fatigue d'abord, et tout le monde l'a vécu ça. Hein. Tout le monde le dit. Ah, j'ai attrapé un rhume parce que j'étais fatiguée. Ça, tout le monde le dit. Ils font le rapport tout seul. J'ai pas besoin de moi. Hein. Ouais, j'ai eu un stress. Hop, évidemment. On a même des choses plus graves, même avec le stress. Hein. J'ai déclenché un cancer. C'est ça, des choses qu'on entend tout le temps. Mais évidemment, ce n'est pas le jour, ça arrive, qu'on doit s'y mettre. Hein. Donc la prévention, c'est vrai que ça commence très, 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 très tôt.
Bah justement, je voulais demander, vu qu'on a maintenant l'image des lignes de défense, qu'on parle des choses qu'on peut faire déjà de notre côté, c'est quoi qu'on peut faire pour prévenir les infections courantes en général?
Eh bien, je répète, je suis désolée de répéter.
Il faut le répéter, c'est
vitamine
vrai.
D, magnésium, okay. Zinc, surtout lorsqu'on avance en âge, parce que on n'en manque pas trop lorsqu'on est jeune, mais surtout on avance en âge, sauf pendant la période aussi où on a une forte croissance. Les enfants manquent de zinc. Moi, je donne du zinc dès l'âge de 3 ans. Hein, dans leur supplémentation, il y a des polyvitamines qu'on peut donner où il y a du zinc dedans. Hein, parce que le zinc ne se donne pas tout seul, c'est toujours dans les polyvitamines. Donc, parce qu'ils grandissent beaucoup, ils ne peuvent pas grandir sans appui. Bien sûr qu'ils grandissent. Il y a des millions de gens qui ne prennent pas de zinc et qui grandissent. Mais je veux dire, si on veut économiser notre fonctionnement et avoir tous les outils nécessaires pour faire face aux microbes, aux virus.
Et ce magnésium, ce zinc, cette vitamine D, est-ce qu'on retrouve tout dans l'alimentation?
Tout ça, ça fait partie de l'alimentation. Seulement à des doses qui sont suffisantes pour vraiment l'utiliser comme un médicament, si je puis dire, quelque part. Même si c'est de la prévention. Bien sûr, on ne pourrait pas vivre. Hippocrate a dit, tu es ce que tu manges. Ça, tout le monde connaît cette phrase. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'il l'a formulé. Mais tout le monde connaît ça. Et c'est vrai. Mais les gens ne se rendent pas compte. Je crois que chaque chose qu'on met dans sa bouche, ça devient nous. En bon ou en mauvais, ça devient nous. Hein, si on mange des graisses saturées, par exemple, eh ben, nos membranes deviennent rigides. C'est comme ça. Et c'est l'inverse. Si on mange des graisses souples, comme les oméga-3, nos membranes sont souples et permettent mieux les échanges entre les cellules. Et, voilà.
Et du coup, la nutrition peut aussi être un moyen de guérison. Dans un de tes livres, j'ai trouvé la phrase « La médecine d'intervention commence à réaliser que si un patient mange mal, il n'y aura pas assez d'outils indispensables pour bien répondre à un traitement. » Et ça, ça voudrait dire que la nutrition sera un élément de guérison, par exemple, dans des situations post-opératoires
Bien sûr. Encore une fois, je vais encore parler du zinc, hein, parce qu'il faudra fabriquer des cellules pour vite cicatriser. Je raccourcis parce que, évidemment, la consultation est plus complexe que ça. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas d'infection post-opératoire, zinc est indispensable. Mais ça, il aurait fallu le donner avant déjà. Mes patients, ils se le donnent avant, leur zinc, pour qu'ils cicatrisent mieux. Il n'y a pas photo. Hein. Bon. Et par exemple aussi des polyphénols, qui sont antifibroses. Lorsqu'on a une cicatrice, dès qu'on coupe la peau, il y a de la fibrose. C'est comme ça, c'est des adhérences. C'est bien connu, ça. Hein. Et là, c'est dramatique, les adhérences. Hein. Aussi bien cutanées, superficielles, intérieure, dans le ventre et tout ça. Donc voilà, par exemple, lors d'une intervention, carrément, je donne des méga doses de polyphénol pour qu'il n'y ait pas de fibrose post-opératoire, du zinc pour qu'il puisse bien cicatriser, et des oméga-3, mais pas pendant l'intervention parce qu'il y a un risque de saignement. Mais après, pour que justement les échanges soient plus faciles, que tout soit plus souple.
Quand on est malade, on a cette image de manger de la soupe. Oui. Est-ce que du coup, c'est ça ce petit combo qu'on peut trouver dans la soupe ?
Dans la soupe, il n'y a pas d'oméga-3 si on ne le rajoute pas. Donc, si on rajoute l'oméga-3, c'est une bonne idée de la soupe parce que les gens, contrairement à moi, lorsqu'ils sont malades, ils n'ont pas envie de manger.
Ah oui, oui. Donc, il faut la passe du coup voilà. Sur plein
donc,
choses.
Une soupe, c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même des éléments dedans qui sont nutritifs, hein, sans besoin de digérer. Il y a de l'eau. Hein, et là-dedans, on peut un peu d'huile d'olive ou de l'huile de... Pas d'huile d'olive, mais l'huile de colza, par exemple, ou de l'huile de lin pour les oméga-3. Et ça fait un petit repas complet. Voilà. Donc, il n'y a pas de zinc. Là, il n'y a pas de zinc, là, par contre.
Mais... de se nourrir quand on...
Pour moi, il ne faut pas oublier de se nourrir. Ça aide un peu, hein, mais pas trop. Parce que, évidemment, c'est une... le corps a tellement besoin d'énergie quand il est malade, hein, pour se réparer, pour guérir, qu'on ne va pas le surcharger encore. Mais les gens qui ont envie de manger, maintenant, moi, je leur laisse manger. Quand ils mangent, si vous avez
pas
faim.
Pas comme à Madagascar, en fait. J'ai l'impression de nos jours, il nous manque toujours quelque chose. Là, on parlait de carence, par exemple, mais il faut qu'en fait, on est toujours à la recherche d'un équilibre. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, parce que nous, tout le monde le sait, ça, quand même, que l'alimentation n'apporte plus, n'est plus aussi riche. Parce que dans le temps, je ne connais pas, hein, je n'étais pas née, mais je veux dire par là qu'on sait bien qu'avec la... Tout ce qui est... Ça dure longtemps, hein. Je me suis rendu compte combien de temps ils gardaient les aliments. Et on sait... Ça a été étudié par les fondamentalistes. Ça a été étudié. La baisse de taux de vitamines et tout dans les aliments, quand ils traînent dans les étals, même en bio. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont plus la richesse et même le sol, les pauvres. Donc, les aliments n'ont plus toute cette richesse. Hein, que c'est quand même, ça reste indispensable, sinon on ne pourrait pas vivre. Puisqu'on vraiment, on ne vit que parce qu'on mange. Hein. Ça, faut bien comprendre ça. Et parce qu'on boit. Donc, c'est vrai que c'est de différentes raisons. Hein. Ils sont maltraités, aliments, voilà, avec plein d'additifs ou juste comme ça.
L'appauvrissement
du sol et tout. Donc, c'est vrai que ça peut expliquer la pauvreté et surtout les modes de cuisson aussi. C'est terrible. Ouais. Ça, je crois que les gens ne tiennent absolument pas compte. Et c'est vrai que dans les recettes, qui sont c'est vraiment le pratico-pratique.
Ouais.
Chaque élément est important. Dans la cuisson, par exemple, le four, mais c'est même pas la peine. Au-delà de 100 degrés, tout est détruit.
Oui. Il n'y a plus de vitamine C.
Il n'y a plus rien du tout. Sauf les macronutriments qui me permettent de vivre quand même. Hein. Mmh. C'est-à-dire les glucides, les protéines et la graisse. Ça me donne heureusement. Mais sinon, il faut bien être conscient de ça. Que c'est pas qu'il faut manger cru. Hein. Moi, je ne suis pas du cru, mais cuisson douce.
Pour perdre le moins de choses essentielles.
Le moins possible.
J'ai lu pas mal de tes livres et j'ai l'impression qu'on parle toujours des vitamines A, B, C, D, E. Il faudrait en fait qu'on mange l'alphabet.
Oui,
c'est ça.
Pas, c'est ça.
Sauf la vitamine D, où c'est un peu plus difficile de la...
Oui, il y en a un peu, tout petit peu. Il y en a dans l'alimentation aussi, mais tellement peu. Et la K aussi. C'est une vitamine essentielle, la K, aussi importante que la vitamine D. Il en manque un peu. Par exemple, quelque chose qui n'est pas abîmé par la chaleur, c'est les minéraux. Calcium et magnésium ne craignent pas la chaleur. Mais ce n'est pas une raison, parce qu'en général, dans l'aliment, ils sont associés avec les autres. Alors, ce n'est pas la peine de chauffer l'aliment.
Est-ce que tu peux me donner un peu plus la relation de cause à effet entre les carences nutritionnelles et les maladies ? On parle régulièrement des carences dans ce podcast, mais je n'arrive pas encore à comprendre qui était là en premier, la poule ou l'œuf, en fait. Parce que on sait qu'il y a des carences qui sont à la cause de nombreuses maladies, mais il y a des maladies ensuite qui donnent des carences. Donc, du coup, c'est un peu dur de faire la relation entre les deux, quoi.
C'est vrai que je ne peux pas dire qui est l'œuf et qui est la poule. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est malade, ça demande tellement, tellement, tellement d'énergie au corps pour voir tous ces petits globules blancs qui se renouvellent très vite, qui meurent, qui se sacrifient. Hein. Le pus, là, c'est du... ce sont des ce qu'on appelle des globules blancs sacrificiels. Hein. Ils sont tués pour nous. Tout ça demande tellement, tellement d'énergie que ça parfois entraîne même une fatigue qui fait qu'on a des Covid longs. Ou des maladies longues parce qu'on a du mal à se remettre quand on a une grippe. Ça ne dure pas juste le temps que le virus vienne, c'est pas ça qui dure. Ça dure 3 semaines parce que tellement notre corps est usé d'avoir lutté contre ce virus. Et donc, déjà, la maladie provoque donc une sorte de maladie. Parce que la fatigue chronique, c'est comme une grosse maladie, une maladie terrible. Mais l'inverse est vrai. Si vous avez une grande carence, c'est vrai qu'on n'a plus les outils nécessaires pour fabriquer justement les outils nutritionnels pour se défendre. Donc je pense qu'on ne peut pas choisir qui est le début.
Donc le tout, c'est juste faire attention à son alimentation et à ses apports.
Oui, mais c'est vrai que ça devrait faire partie des choses qu'on apprend à l'école, les basiques, ce qui nous abîme. Bon, on peut manger du sucre et tout ça. Je peux raconter une petite histoire.
Avec plaisir.
Ma petite fille, elle avait 2 ans. Alors pensez bien qu'elle a... La petite fille de nutrithérapeute, dès le berceau, ça baigne dans la nutrithérapie. Je rentre dans la cuisine, elle met vite sa main derrière dans son dos. Et moi, j'ai tout de suite compris que ça avait un bonbon.
Ah.
Mais je la connais. Mmh. Elle met sa main comme ça. Puis je lui dis, viens ici, toi. Puis elle vient. Elle n'était pas très fière. Elle a 2 ans. Hein. Et ouais. Je lui dis, t'as déjà vu ta maman faire du caramel? Elle ne comprenait plus rien, pourquoi je lui demandais ça. Elle croyait que j'allais lui dire que ça dans la main. Et
ouais.
Elle dit, oui. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend la poêle, t'es d'accord? Oui. D'ailleurs, je suis pas contente quand elle fait ça, hein, que j'aime pas qu'elle fasse ça. Mmh. Avec sa tête. Et après, j'ai dit, elle met du sucre et elle chauffe.
Mmh.
Et ça fait du caramel. Mmh. Tu trouves ça bon, toi? Puis comme ça. Je dis, ça colle, là, toi, ça colle beaucoup. Elle dit, oui. Bon. Eh bien, nous, quand on mange du sucre, hein, notre corps, il a de la température. Tu sais, on prend parfois ta température dans les oreilles. Parfois, tu as beaucoup, beaucoup, tu es malade. Mais quand tu n'es pas malade, tu as 37 degrés, c'est chaud. Donc, le sucre, il fond dans ton corps.
Mm-hmm.
Il colle.
Mm-hmm.
Elle sort sa main comme ça. Effectivement, entre-temps, le bonbon avait collé dans sa main.
Ah.
Elle a fait comme ça. Moi, je peux vous dire que... Et je dis, ça s'appelle la glycation. Et je peux vous dire qu'elle savait ce que c'était la glycation. Je dis, répète, glycation. Et maintenant, ton corps, ça glique comme ça. Par une petite fille de 2 ans qui savait ce que c'était la glycation.
Du coup, elle avait peur de manger des bonbons après.
Pendant au moins jusqu'à l'école, jusqu'à 5-6 ans, elle ne mangeait pas de bonbons. Mais c'était facile à expliquer. Le sucre qui colle tout l'organisme, c'est la glycation.
Et du coup, pas de caramel non plus à la maison?
Du caramel à la maison. Sauf quand la grand-mère n'était pas là, peut-être. Je ne sais pas.
On a du coup cette alimentation moderne qu'on a parlé dans pas mal de nos épisodes jusque-là. On a parlé là des carences, des apports par l'alimentation qui peuvent être insuffisants. Est-ce que forcément on est obligé d'avoir recours aux compléments alimentaires?
Oui, parce que justement les aliments n'apportent plus ce qu'il faut. On l'a dit déjà avant. Hein. Donc on a besoin d'avoir recours à des compléments alimentaires si on a envie de rester en bonne santé.
Mmh.
Hein, pas nécessairement pour vivre, parce que je vous dis, il y a des millions de gens qui n'en prennent pas et qui sont, ils sont bien vivants, hein, bien toniques, bien tout ce que vous voulez. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nutrithérapie, c'est ça aussi. J'ai oublié peut-être de préciser au départ, c'est que c'était une médecine de prévention surtout, au départ. Ce n'était pas pour traiter quoi que ce soit. C'est une médecine de prévention. Puisqu'on sait qu'avec l'âge, on perd, ça c'est naturel, hein, c'est comme une petite bougie qui s'éteint, on perd tous nos outils hein, qui sont de moins en moins performants avec l'âge. Moi, j'avais une grande sœur qui avait 20 ans de plus que moi, et ça a été miraculeux parce qu'elle était moteur aussi de pourquoi je suis rentrée dedans, c'est qu'elle avait aucune maladie, mais elle se levait le matin, elle avait mal, elle disait, un peu... Mais, donc ça, tout le monde, comme disait un humoriste français célèbre, si à 60 ans on se réveille et qu'on n'a pas de douleur, c'est qu'on est mort. Donc, avec l'âge, voilà, on a des douleurs articulaires, même sans être malade, on est fatigué. Elle me dit, je suis fatiguée, tu peux rien te donner. Je lui dis, tu veux quoi? Tu veux que je donne des antidépresseurs? Tu veux que je donne quoi? Moi, je ne savais pas, avant que je fasse la nutrithérapie, je ne savais pas quoi lui donner. Hein. Je connaissais bien les histoires de magnésium, mais souvent, ça leur donnait mal au ventre. Enfin bref, j'étais pas mal à l'aise avec ça, parce qu'il y avait l'indication officielle. Hein. Le magnésium était remboursé en France. Hein, jusqu'à... Ah oui, quand je me suis même installée, c'était encore remboursé. Mais c'était Magné B6, on ne va pas dire de nom, plus maintenant. Parce que d'abord, ils trouvaient que ça ne sert à rien. Et c'est pas vrai, c'est que ces molécules-là n'étaient pas les bonnes. Hein. Maintenant, aucun complément n'est remboursé de toute façon hein, maintenant. Mais c'était remboursé parce qu'il y a ce qu'on appelle l'AMM, avis de mise sur marché. Il y avait des études pour dire que c'est pas tout ce qu'on dit là, c'est pas du vent.
Pas
hein.
Inventé,
hein, oui. C'est pas inventé. Le magnésium était remboursé. Ça, j'ai connu ça. Mais c'est maintenant avec les connaissances qui a évolué, il y a une nouvelle sels de magnésium qui sont beaucoup mieux supportés, qui sont pour mal. Qui ne font pas mal au ventre, oui. Qui sont vraiment plus efficaces, etc. etc. Mais ça, c'est une science en évolution constante. Hein.
Tout à l'heure, j'ai parlé de manger l'ABC, l'alphabet. On dit aussi qu'il faudrait manger l'arc-en-ciel pour être en bonne santé. On a d'ailleurs fait un post sur Instagram à ce sujet. Alors, j'aime bien jouer dans ce podcast. Est-ce que si je peux te donner une couleur, tu me dis ce qu'il faut mettre dans son assiette. Ça te va?
Je commence. Ça me va, ça dépend des saisons aussi.
Ça, c'est à toi de me dire. Je commence avec le vert.
Le vert. Donc, le vert, c'est classique, c'est la chlorophylle. Donc là, toute l'année, on peut en mettre actuellement les choux verts, il y a les poireaux, parce que le vert des poireaux, tout ce qui est vert, c'est la chlorophylle, qui est antioxydante. Et les plantes sont malignes, parce que la molécule même de chlorophylle inclut le magnésium dans la molécule chimique du chlorophylle. Ils ont l'énergie, ils ont tout. Hein, ils n'ont pas besoin de prendre des compléments. Ils ne peuvent pas prendre des compléments. Hein, bon. Donc en hiver, il y a les choux verts, il y a la salade, qui est toute l'année maintenant, même en bio. On arrive.
Elle est verte par la chlorophylle aussi?
Oui,
la salade.
Vert, c'est la chlorophylle.
Ok.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la chlorophylle dedans. Mais le vert, c'est synonyme de chlorophylle, même si la chlorophylle cache, comme dans les feuilles des arbres, des caroténoïdes, des choses comme ça, du jaune. Hein, c'est pour ça qu'on voit toutes les jolies couleurs d'automne. Hein, donc, ça ne veut pas dire que la salade ne contient que de la chlorophylle. Hein, elle contient tellement d'autres choses. Hein.
Bah, du coup, le jaune.
Le jaune. Le jaune, c'est le poivron jaune, par exemple.
Ils sont riches en quoi, du coup, du fait qu'ils soient jaunes? Par exemple, tu avais la caroténoïde, oui. Ça c'est pour le orange, oui. Vu que c'est proche de la carotte.
Oui, oui.
Mais les jaunes, c'est...
Eh bien, il y a les polyphénols déjà. Dans tout ce qui est coloré, il y a des polyphénols. Hein. Bon.
Donc, poivron jaune.
Par exemple, hein, c'est parce qu'elle a beaucoup, toute l'année, des poivrons jaunes. Mais qu'est-ce qu'il y a comme d'autres, comme légumes jaunes Je ne viens pas l'idée comme ça, mais...
Les légumes ou les fruits?
Les légumes ou des fruits, oui, il y a...
je sais pas, les citrons. Mais ça, je sais pas si...
Le citron, c'est pas jaune, c'est la peau, qui est très riche d'ailleurs, la peau en bio, je conseille. Je zeste toujours la peau, parce qu'il y a un principe actif dedans, hein, qui est très beau, très bien aussi. Non, parce que c'est la peau, c'est pour ça que dans les fruits bio, on doit manger la peau, hein, si elle n'est pas abîmée, parce qu'elle est abîmée, il faut faire attention, hein.
Du coup, le orange, on a dit les carottes, oui, parce que c'est là où il y a les caroténoïdes. Oui. Le rouge, moi, j'ai les bétalanines, mais je ne sais pas où est-ce qu'on en trouve.
La bétalanine,
ouais.
Dans les choses rouges, justement.
Par exemple, je ne sais pas, je sais que la tomate, il y a quelque
la
chose...
La lycopène.
Voilà.
C'est le rouge, c'est la lycopène.
Plus que ça.
Voilà.
Après, je sais, violet, bleu, c'est tout ce qui est... aubergine, anthocyanine.
Voilà, les anthocyanes. Les anthocyanes, tout ce qui est un peu foncé.
Et ensuite, il y a marron ou beige, où là, il y a des tanins ou des fibres.
Oui, des fibres, tanins. De toute façon, il y a toujours des fibres partout. Non, dès que c'est un fruit et légumes, il y a des fibres partout. Mais qu'est-ce qui donne la couleur, hein? C'est toujours les pigments. C'est toujours les pigments qui sont protecteurs.
Et du coup, dans son assiette, on doit mettre...
On essaie le maximum de couleurs de saison.
Okay.
De saison. On ne va pas mettre des fraises, alors qu'il n'y a pas de fraises en hiver ici chez nous. Je parle de chez nous ici en Europe. Ça n'a pas tellement d'intérêt. On va attendre la bonne saison. Même ça, ce n'est pas respecté.
Parce qu'il y en a de partout.
Il y en a partout et qui viennent. Et que...
Dans ton livre, tu cites des aliments au super pouvoir. Tu utilises d'autres termes, ils s'appellent les aliments plus.
Oui, plus parce qu'ils ont plus de principes actifs en fait. C'est comme le thé matcha par exemple. Il y a des polyphénols comme dans tous les thés verts, c'est un thé vert. Hein. Mais dans le thé matcha, ils utilisent tout, c'est les feuilles, oui. Tout.
Et on mange
le produit lorsqu'on fait une infusion de thé, on prend que l'eau. l'eau chaude passe à travers les feuilles.
Et on le retire ensuite.
On retire ensuite. D'ailleurs, moi, quand les feuilles sont belles et elles sont tendres, moi, je les rajoute dans les plats.
Oui. On peut le faire d'ailleurs quand on mange du thé vert. On peut faire un onigiri avec.
Voilà. Mais le thé matcha, c'était plus parce que on a tout, on mange vraiment
le tout en entier. Du coup, ça veut dire que ils ont plus de principes actifs. Est-ce qu'ils peuvent avoir aussi des effets?
Oui, bien sûr.
Proches des médicaments.
Presque anti-inflammatoire, mais c'est jamais immédiat comme les médicaments. C'est pour ça que la nutrithérapie, on dira ce qu'on voudra, mais je trouve qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on prépare son corps à aller mieux tous les jours, tous les jours. Et c'est pas le jour où on est malade que d'un seul coup, c'est miraculeux. On va prendre un nutriment, je parle bien d'un nutriment, je parle pas d'un médicament, qui va nous soulager tout de suite. Les gens sont très déçus, souvent.
Oui, on veut tout avoir tout de suite.
Oui, tout de suite, parce qu'on a l'habitude avec les médicaments. On veut avoir tout de suite. Et même avec les autres médicaments, les autres médecines, pardon. Par exemple, je sais que certaines personnes sont tout de suite soulagées quand ils font faire de l'acupuncture. Je veux bien l'accepter, c'est vrai, j'en suis certaine. Pareil pour l'homéopathie, je suis certaine, mais je ne connais pas. Alors, je ne mélange pas les gens, moi je ne connais pas, mais je sais que ça, c'est un traitement. Donc, on prend un traitement, même avec la phytothérapie aussi. Mais ça, je ne m'avance pas là-dessus, parce que c'est vrai que c'est très puissant et il faut vraiment connaître les plantes. Parce que la phytothérapie, ce n'est pas encore la nutrithérapie, c'est encore autre chose. Moi, j'utilise vraiment les molécules que le corps connaît et qu'il utilise tous les jours.
Du coup, si on a des maladies de longue durée, là, on peut voir des améliorations.
Oui.
Si on a juste...
On modifie son terrain. Si on est allergique, par exemple, peu de vie. Moi, je rêvais de ça, parce que moi, ce qu'on appelle un terrain atopique. Le terrain de ces enfants qui naissent avec un terrain où ils sont susceptibles de faire de l'allergie, c'est-à-dire des eczémas, de l'asthme, des rhinites. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais des sensibilisations. Une fois que c'était fait, j'étais encore allée chercher autre chose. Il fallait encore faire.
Tout le temps.
Je savais pas, je me suis dit, jamais je m'en sortirai. Et c'est le miracle de la nutrithérapie, parce que plus jamais, je n'ai de ce genre de choses. Et c'est pas pour ça que je l'ai pris, parce que c'est pas que j'y croyais pas, mais je veux dire par là que je pensais pas que ça pouvait. Mais c'est après des années, de supplémentation.
Je vais partir sur un tout autre sujet. On va se répéter aussi un peu avec les épisodes précédents, mais je voudrais partir déjà de ces chiffres-là. Si seulement 20% des facteurs de maladie sont dus à la génétique et 80% sont dus à la nutrition, à l'environnement, au mode de vie, au comportement, sur ces 80% restants, combien, toi, tu penses qu'ils soient dus seulement à la nutrition ?
Je sais pas, je crois que j'ai pas une réponse précise, mais on va dire peut-être 20%, parce que tout le reste est tellement important, la gestion du stress, la gestion des polluants,
tellement de choses. Pratiquement un quart sur lequel on peut avoir un impact.
Oui, mais même sur les polluants, on peut avoir un impact, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter des sous plastique, on n'est pas obligé de respirer le plastique, on n'est pas obligé de rester sédentaire. Donc on a aussi un impact. Donc l'alimentation pure, c'est peut-être 20%, mais tout le reste, on peut agir aussi. Et peut-être 20%, on ne peut pas agir, c'est vrai. Si à long terme, en étant militant peut-être, mais dans combien
Toute
de temps, on ne sait pas.
tous ces descendants qui s'y mettent. Et du coup, si les gènes influence partiellement notre bien-être. J'ai vu qu'il y avait quand même des études sur la nutrigénomique. Comment la nutrition influencerait nos gènes.
Et parce que nos gènes,
pas du tout.
C'est nous-mêmes. C'est la même chose.
Oui.
Ce qui nous pollue, ça pollue nos gènes. Nos gènes, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de nous. Ça dépend directement de ce que nous mangeons aussi. Ça, il faut bien comprendre.
Comment la portée de la nutrition, c'est tellement vaste. En fait.
Bah oui, parce que sinon... C'est vraiment, c'est pas que c'est vaste, c'est notre vie, c'est notre corps, c'est notre...
Et du coup, il y a un lien entre la prévention par l'alimentation et la prévention de grosses maladies comme le cancer.
On peut essayer, c'est-à-dire que...
On peut pas éviter...
On peut pas éviter, mais comme... au début, j'étais beaucoup... moi qui n'avais jamais pris de médicaments de ma vie. Ils m'ont vu prendre toutes ces petites pilules, là... Et il me demandait, mais c'est pas possible, comment tu peux prendre tout ça et tout? Mais je dis, écoutez, moi je sais ce que je fais, je connais les études, je fais ça, puis après on verra bien. En tout cas, j'ai bonne conscience, d'essayer en tous les cas. Hein, on verra bien si ça marche ou ça ne marche pas. Il se trouve que pour moi, en ce qui me concerne, ça a marché. Bon, ça ne va pas toujours comme ça, mais voilà. Et au fur et à mesure de l'âge, malheureusement, je suis obligée de remonter un peu mes doses parce que, voilà, c'est normal. Hein, je veux dire que c'est... ça fait partie du vieillissement physiologique.
Et je me demande même si ce n'est pas la chose la plus accessible de faire attention à son alimentation quand on est peut-être des personnes un peu plus vulnérables. Je pense par exemple aux enfants, aux seniors, aux personnes immunodépressives. C'est un des meilleurs
facteurs. Oui, mais ce n'est pas sûr que c'est eux qui... Les enfants, d'abord, ils dépendent quand même des parents. Hein?
Oui.
Donc, il faut déjà que les parents soient motivés pour leur donner des supplémentés. Les personnes âgées, je ne suis pas certaine hein, qu'ils... Parce que souvent, j'ai une petite opposition en disant « j'ai vécu jusqu'à là », ce qui est vrai. Ils ont vécu sans moi, sans mes compléments, jusqu'à là où ils sont arrivés. Mais je leur explique le bienfait qu'ils pourraient avoir, ne pas avoir de forme trop grave, et de quand même essayer de... On peut essayer. Hein? C'est jamais trop... ça qui est merveilleux en nutrithérapie, c'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais trop tard. Hein,
même à 40 ou 50 ans
Ça, c'est jeune.
Ah oui, c'est la moitié.
Bah, 40 ans, on n'est pas encore... On a déjà... Surtout à partir de l'âge de 25 ans, on fait l'anabolisme jusqu'à 25 ans, et après c'est le catabolisme. Donc à 40 ans, c'est vrai qu'on a commencé à s'abîmer. Hein? Mais c'est pas encore là que ça décompense. Hein? Ça dépend ce qu'on a fait avant. Hein? Si on a toujours une bonne hygiène de vie, on a fait beaucoup de sport et tout, on décompense moins que la personne qui a fumé, qui a fait n'importe quoi, qui ne dormait pas.
Je voudrais revenir un peu sur les infections courantes.
Oui.
Le rhume, la grippe, l'herpès, on parle souvent de l'importance d'augmenter la vitamine C dès les premiers symptômes de rhume, par exemple.
Absolument.
Mais ça marche pour d'autres infections ?
Pour toutes les infections, ça marche. Hein? Surtout virales, c'est vrai. Hein? Mais pour toutes les infections, ça marche. Et ce qu'il faut, c'est des petites doses. Il faut que la scorbémie soit stable. Hein? Donc
régulièrement,
toutes les heures, dès le début, des petites doses de vitamine C, parce que ce n'est pas la peine de donner des grosses doses, ça va directement dans les urines. Donc, des petites doses toutes les heures.
Toutes les heures, donc les heures. En fruits ou en supplémentation ?
Ah, en supplémentation, je parle là.
Ah oui.
En fruits, les gens sont malades, ils ne mangent pas beaucoup en général, ils n'ont pas envie de manger, ils n'ont pas envie de... Bien sûr, c'est mieux s'ils mangent des fruits ou des choses comme ça, mais ce n'est pas suffisant de toute façon.
On sait que notre corps abrite énormément de micro-organismes. Notamment
plus que nous
intestinal, oui.
Il y a plus de cellules.
Ils sont alimentés par notre nourriture, entre autres. En quoi la flore intestinale joue un rôle de protection contre les infections ?
Ils nous protègent, mais il faut bien les nourrir. Donc pour les nourrir, l'alimentation, c'est les prébiotiques, qui sont les fibres des légumes et des fruits. Un bon microbiote nous protège de toutes les maladies quasiment, puisque ils sont encore plus nombreux que les microbes et voilà, ils combattent, on va dire entre guillemets. Hein, voilà. Et on a souvent, malheureusement, on est souvent déséquilibré parce que bon, le plus agressif, c'est les antibiotiques. Mais ça, on le sait, puisque maintenant, avec les antibiotiques, on donne des probiotiques. Il ne faut pas le donner juste le temps. Les antibiotiques, c'est une semaine ou cinq jours ou une semaine. Les probiotiques, il faut le donner plus longtemps. Mais ça ne sert pas non plus trop de donner tout le temps. Pareil, c'est-à-dire, nous sommes relativement nouvelles. Il n'aime pas trop qu'on... Notre propre microbiote n'aime pas trop qu'on l'assiste tout le temps.
Du coup, pas trop manger de produits probiotiques en plus.
C'est-à-dire, les probiotiques en complément alimentaire, j'entends.
Oui.
Mais les probiotiques, si, bien sûr. Les yaourts au soja fermentés, je dis yaourts au soja parce que moi, je ne préconise pas les produits laitiers. Hein, il y a des produits au soja qui sont fermentés aux probiotiques. Pourquoi pas ?
Et d'autres choses courantes qui arrivent, comme à moi, les allergies, tu en as parlé un petit peu déjà. Les allergies, on sait que ça résulte d'une réponse excessive du système immunitaire. Est-ce qu'il y a des stratégies nutritionnelles pour réduire cette réaction ?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne savais pas que j'allais complètement réduire ça. C'est l'ensemble des choses. Magnésium, hein, c'est vraiment tout ce que j'ai dit hein, qui fait que un jour je n'étais plus allergique. Mais je le suis toujours, mon tempérament. Je sais que là, il suffit qu'il y en ait Bah, par exemple, à Berlin, là, j'ai eu une petite attaque, là. Parce que sûrement, il y en a plus ou je ne sais pas quoi. Mais
oh, on a
c'est...
beaucoup de boulot, on a plein de choses en ce moment.
Très certainement, mais juste une petite. J'étais même surprise, je me disais, ah, c'est revenu, c'est... Ouais. Mais c'est... Voilà, mais c'est... Toujours pareil, si on a un corps qui... qu'on aide à bien fonctionner, je répète, je ne sais pas, ça marchera tout le temps, je ne sais pas. Hein, là. Je vais bien mourir comme tout le monde, comme je dis à ma fille. Mais si je ne meurs pas dans de trop mauvaises conditions, c'est très bien. Voilà.
On a aussi pas trop parlé de l'inflammation pour l'instant, mais c'est,
mais c'est l'allergie et l'inflammation, c'est le même mécanisme. Hein.
Oui. Mm. Et je le vois aussi dans les douleurs articulaires, musculaires. Est-ce qu'il y a aussi des aliments ou des micronutriments qui peuvent aider à soulager cette inflammation?
Oui, alors là, c'est pareil, ça demande du temps aussi. Hein. Ça va jamais remplacer un antalgique, anti-inflammatoire que je n'ai jamais prescrit. Je ne veux pas, c'est tellement rapport bénéfice, tellement mauvais, sauf les personnes qui ont vraiment une maladie rhumatismale grave. Mm-hmm. Là, ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. C'est bien obligé. Mais là, c'est pareil, il y a des nutriments spécifiques, hein, comme la chondroïtine sulfate et tout, qui protègent les articulations à long terme. Il ne faut jamais arrêter, il faut prendre ça tout le temps, en prévention aussi. Mmh. C'est pareil, même si j'avais aucun problème à l'époque, j'ai commencé à prendre ça, à cause de ma sœur, qui avait une douleur partout. Je me disais, je ne vais pas avoir de douleur partout, hein, parce qu'on sait quand même que génétiquement aussi, il y a des familles où on a plus d'arthrose, on a plus de choses comme ça. Je dis bien arthrose, je n'ai pas dit maladie rhumatismale, qui sont des maladies graves et qui sont autre chose. Hein, bon.
Est-ce que tu as des aliments stars pour l'immunité à connaître? J'ai vu un peu dans tes livres, tu répétais l'exemple des algues, des protéines végétales et du chocolat noir, peut-être avec le magnésium. Mais c'est quoi tes...
Bah, les algues, c'est nécessaire, tout simplement. Ce n'est pas un aliment star, c'est nécessaire. Parce que on manque d'iode. Et ça, depuis toujours. Enfin, je parle de la France, hein, où j'exerce. Et on a besoin d'iode. C'est un nutriment essentiel, comme beaucoup d'eau. Hein. Lorsque vous connaissez sûrement la T3 et la T4, qui sont les hormones thyroïdiennes. Bon, je pose la question à mes patients. C'est-à-dire T3, T4, ils savent bien que ce sont les hormones thyroïdiennes, parce qu'on leur mesure, etc. T3, ça veut dire 3 molécules d'iode. T4, 4 molécules. C'est tout simplement ça, hein. T4, c'est 4 molécules d'iode. Donc, le rôle central de l'iode, déjà dans la physiopathologie, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a le sélénium, beaucoup de choses qui jouent là-dedans, mais déjà dans la... Donc, si on manque d'iode, et qu'on sait qu'on manque d'iode. En France, en 1952, le gouvernement a décidé de mettre de l'iode dans le sel, le fameux sel Cerebos. Hein. Mais bon, maintenant, on sait que c'est plus possible de manger le sel, puisqu'on sait que maintenant, c'est vraiment un aliment... pervers, donc il faut absolument essayer de trouver de l'iode
d'autres sources,
voilà. Ils parlent de mettre, d'autres pays ont déjà mis ça en place, je ne sais pas en Allemagne ça s'est fait, de mettre de l'iode dans la farine.
Ah non,
mais il y a des pays qui ont fait ça, mais seulement tout le monde, moi je ne mange pas ce pain-là, moi. Moi je mange des pains particuliers, mais pour dire que voilà, donc c'est vraiment une histoire, c'est à nous de... Alors il y a beaucoup de... Là par contre je ne donne jamais de compléments d'iode, parce que je trouve que c'est trop bête, tout ce qu'on peut faire par l'alimentation, on doit le faire par l'alimentation. Et c'est pour ça que ça devient effectivement un aliment phare pour moi, parce que l'iode, on peut l'avoir par l'alimentation. Si vous mettez un petit bout de kombu, c'est la plus riche en iode, un petit bout régulièrement dans votre soupe, dans votre riz, vous avez suffisamment d'iode. Ça, je fais les dosages. Hein. Donc, moi, je ne dis pas ça histoire de dire quelque chose. Hein, moi, je vérifie toujours par des analyses d'urine pour montrer qu'on a bien stabilisé son taux d'iode.
Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur les œufs, parce que ça a été longtemps critiqué pour l'impact sur le cholestérol, mais aujourd'hui on les remet un peu en avant comme un aliment riche, complet.
C'est toujours pareil, c'est toujours les excès. Ouais. C'est les excès qui font qui sont pas bien. Ceci dit, je reviens quand même en arrière. Autant j'ai commencé à dire que c'était bien les œufs, sauf il y a une contre-indication quand même, c'est les gens qui ont une hypercholestérolémie familiale. Ils ne peuvent pas manger le chou. Parce qu'ils ont déjà des taux à 3,55 g, etc. Ouais. Eux, ils ne peuvent pas se permettre de manger des jaunes d'œufs. Mais je viens quand même un peu en arrière maintenant à cause de la pollution des élevages de poules et de poulets. Et les œufs n'échappent pas à ça. Donc, je trouve qu'il faut être quand même raisonnable dans la consommation des œufs. Okay. Hein, pour d'autres raisons de pollution cette fois-ci. Hein.
Et qu'est-ce que tu penses des aliments fermentés?
C'est très très bien sur le principe, mais il faut manger trop parce que c'est très salé. C'est très salé, hein.
Très salé, bah, c'est vrai qu'on connaît la choucroute, là c'est fini, il y a de l'icelle, c'est sûr, mais le genre
par exemple, la choucroute...
kimchi ou le kombucha...
Ce qu'on ne sait pas, c'est la choucroute, c'est pour ça que le kimchi n'est pas familier, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit cuit. Or la choucroute, nous mangeons nous, hein,
ouais,
on la mange, et il y a la choucroute fraîche qui arrive maintenant dans les boutiques bio, et moi je la mange comme ça, en salade, et personne ne l'aime parce qu'elle est un peu acide, parce qu'elle est fermentée.
Ouais.
C'est celle-là qu'il faut manger, et, ou le kimchi ou tout ça, mais il faut faire très attention au sel, à teneur en sel.
Et c'est quoi le faux pas pour bousiller son immunité? Qu'est-ce qu'on ne faut pas manger pour...
Je pense que Jean-Paul Curté a mis le sel en avant. Moi, je crois que c'est le sucre.
Ah.
Oui, parce qu'on a, fait des études, des pauvres prises de sang qu'on a fait sur des personnes. L'immunité baisse drastiquement dès qu'on a mangé du sucre rapide. C'est une catastrophe. Par exemple, les tests, là, on fait boire du glucose. C'est une catastrophe. C'est une baisse d'immunité immédiate. Ça, c'est immédiat, par contre. Autant pour guérir, c'est pas immédiat. Là, pour nous détruire, c'est immédiat.
Donc, le sucre rapide. À bannir.
Le sucre rapide, oui. Ça, je crois que personne, tout le monde est d'accord là-dessus.
On parlait de cuisson tout à l'heure.
Oui.
J'ai même vu dans un des livres, je ne sais plus lequel, mais qu'une brochette de poulet grillé, c'est l'équivalent toxique de 800 à 1000 cigarettes fumées en une fois. Et oui, on parle aussi de la cuisine vapeur, la cuisine à l'eau, etc. C'est quoi la meilleure cuisson?
Cuisson douce, la plus simple possible.
La plus simple, sans matière grasse ou...
Si, mais avec l'huile d'olive, à feu doux. Feu doux. Et c'est cuit, hein, faut pas croire. C'est une question de temps. Par exemple, le mijotage dans le temps, c'était pas si mauvais que ça, parce que c'est une cuisson douce. C'est pas le fait. Manger cuit ou cru, ça n'a pas d'importance, mais il faut pas que ce soit haut, en chaleur. Si on n'aime pas le cru, ben, on ne mange pas de cru. On mange du cuit. On le cuit lentement.
Je voudrais finir juste sur les fruits et légumes avant de passer à mon dernier jeu. Là, tu disais cru, cuit, en jus, séché, du moment que ce soit pas trop haut en température, du coup, difficile de choisir nos fruits, nos légumes. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est de saison, bio
A toujours de saison, de toute façon. Hein, c'est quand même ceux qui sont les mieux nantis en principe actif. Hein. Et puis, là ou l'autre, ça dépend des goûts. Le tout, c'est que moi, quand je fais des fruits cuits... Hein, moi, je sais que mon compagnon, il préfère cuit parce que c'est sûrement plus gourmand, j'en sais rien. Je les mets dans la casserole, je mets un filet d'huile d'olive ou alors une purée d'amande, je couvre, je mets de la cannelle, je mets des épices, ça cuit doucement, doucement, doucement comme ça. Et ça fait une bonne, ça fait un vrai dessert. Et je mets après la fin, là, du chocolat noir dessus, hein, pour donner du goût un peu. Voilà.
Du coup, ce serait quoi la conclusion pour avoir la meilleure alimentation?
Manger un peu de tout. Manger un peu de tout, vraiment. C'est ça. Je crois que les gens n'ont pas le temps, le courage de cuisiner. Vraiment, il n'y a pas un aliment. Aucun aliment n'est blanc, aucun aliment n'est noir.
Okay.
Aucun n'est blanc. Par exemple, le chou, le fameux chou, qui a des vertus extraordinaires. Si vous mangez des choux tout le temps, vous avez un bon goitre là, hein. Pas que ça enlève l'iode. Hein, donc, aucun aliment n'est tout blanc. Donc, il faut manger varié. Varié et plus de légumes, la moitié de l'assiette, plus de la moitié de l'assiette en légumes et fruits.
Ok. Bon, c'est bon. On a passé en revue nos questions.
Ça, c'est tellement, tellement simple, mais en même temps, si déjà on fait ça, on est bon, quoi.
Ensuite, j'ai un petit quiz pour toi. C'est sur les aliments protecteurs qui sont anti quelque chose. Pour chaque action, je voudrais que tu me donnes un aliment que tu connais, qui soit facile à nous de retenir. Donc, je peux commencer à te dire un anti-migraine. Ce serait quoi?
Un aliment très vert, parce que c'est magnésium.
Il faut du magnésium.
Voilà.
Un anti-hypertenseur.
Magnésium encore.
Anti-dépresseur, anti-stress.
Magnésium.
C'est la réponse à tout.
Presque, j'avais dit que c'était la basique, ça, c'est le basique.
Ouais. Un anti-allergique.
Magnésium.
Ouais.
Dans un vitamine C, on peut mettre.
Anti-ulcéreux.
Ah, ça, je donne plutôt à l'aloe vera. Alors, ça, aide à l'aloe vera. Parce que c'est pas le magnésium qui va faire un pansement là. Hein. Puis ça va pas. Même l'aloe vera ne va pas guérir le cerf, mais enfin, ça va adoucir.
Un anti-inflammatoire.
On va dire la bromélaïne pour changer un peu.
La bromélaïne?
La bromélaïne ou alors on va dire les oméga 3 anti-inflammatoires.
Ouais. Et dans l'alimentation, on trouve ça où, la bromélaïne?
La bromélaïne dans le cœur de l'ananas.
Ah ouais, d'accord. Un antioxydant.
Un fruit, n'importe quel fruit, mais très coloré. Myrtille.
Ok.
Un des meilleurs, c'est myrtille. Fruit rouge.
Antibactérienne.
Antibactérien. Microbiotique, peut-être.
Donc, plutôt aliments fermentés, utiliser les yaourts au soja. Ouais. Antispasmodique.
Magnésium.
Du coup, le chocolat, ce serait antispasmodique.
Oui, mais le magnésium de chocolat n'est pas bien absorbé.
Ah, moi, j'avais cherché la cannelle. Parce que...
Tout ça, ça marche, mais si vous classez. Hein, ouais. On ne peut pas manger de la cannelle en trop grande quantité.
Ouais.
Hein, c'est trop fluidifiant.
Antifatigue.
Magnésium.
C'est très simple, en fait, ce quiz. Anti-vieillissement cellulaire.
Antioxydant.
Donc quoi comme genre d'ingrédients à mettre
tous les fruits
assiette.
Rouges, le thé vert, voilà.
Non, le thé vert pour les centenaires.
Oui.
Et le dernier, c'est anti-hyperglycémiant.
Il y a un complément alimentaire, c'est berbérine, mais anti-hypoglycémiant, c'est voilà. Berbérine, mais ça, c'est pas un aliment.
Oui. Hein. Moi, j'ai vu myrtille, mais tu l'as déjà
mentionné.
Oui,
c'est ça.
Ou vinaigre de cidre.
Non.
Pas du tout.
Non, c'est pas que c'est pas du tout, mais ça n'a pas d'action vraiment importante.
Mmh. Bon, bah, c'était la fin de mon petit quiz.
Merci.
Ça nous fait une belle liste de courses à avoir. Merci pour tous tes conseils qu'on va pouvoir mettre en application.
Et je suis un peu désolée parce que là, je suis un peu déstabilisée, mais c'est...
Non, mais en tout cas, tu as toutes les recettes dans le livre La cuisine
voilà.
Immunité.
Alors, c'est vrai que chaque fois que je fais une recette, je prends le temps de revoir ce qu'il y a dedans et tout, parce que je ne peux pas apprendre par cœur toute la liste des produits qu'il y a dans un... Dans un...
Vraiment, je ne sais pas si on voit là, sur, c'est des recettes par saison de ce qu'on peut manger.
Alors, c'est coloré, hein, on voit que c'est coloré.
Oui, c'est clair. Et puis, il y a toute la partie théorie juste avant. C'est vraiment facile à lire et à avoir chez soi. Donc, je recommande La cuisine de l'immunité. Un dernier mot aux personnes qui nous écoutent, peut-être.
Bon, qu'ils se fassent du plaisir et du plaisir à se faire du bien. Okay. Prendre du plaisir à se faire du bien.
En tout cas, on va penser à ça. Jusqu'au prochain épisode. Merci encore d'être venu sur le plateau de
Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Et à bientôt.
À bientôt. Et prenez soin de vous.
Oui. Au revoir, Naomi.
Au revoir.